m'agace si je suis trop nul. Je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Gut, wie geht's rund vom Zuhören von ihrem Sender Judaica? Die Zeit fliegt herum, gell? Schon ins Juni, es gibt bald große Ferien. Alors, ma langue maternelle dit ceci. Bien le bonjour, comment vous gazouillez, chères grandes oreilles du 102.9 Radio Judaïca, déjà fin juillet, et ça sent le parfum des grandes vacances, férias. Fais-moi une place, une émission qui revient comme chaque semaine avec la même ferveur, le même plaisir de partager un brin de causette, et ça, depuis presque 3 ans. Que du bonheur, vraiment, les grandes oreilles. Et aujourd'hui, pour ma dernière chronique, avant les grandes vacances, avant la rentrée de septembre, j'ai un examen de passage, voir si je passe en 4e année. Mais ça, on verra un peu plus tard, à la fin de l'émission, mon invité me le dira. Et, mais qui est ton invité, Muller? Tu es tellement bavard en ce moment, mon invité. Yaya, je vais vous le dire, j'ai invité le grand rabbin, monsieur Harold Abraham Weil, que de mourir shalom, grand rabbin. Comment allez-vous? Je suis très très heureux de vous avoir à côté de nous, devant cette forêt de micros. Bien le bonjour.
Good morning.
Ah, c'est bien,
vous shalom, parlez... vous avez vu cet accent incroyable.
Vous parlez un peu le dialecte aussi alsacien, on en parlera un peu tout à l'heure. Alors, moi je vous ai invité pour un peu mieux vous connaître. Depuis que je suis ici à la radio Judaïca, je vous croise un peu dans les couloirs. Souvent vous êtes pressé, vous courez comme un kangourou dans les... Et vous avez tellement d'énergie, tellement de banane, la joie de vivre. Elle vient d'où cette énergie, Harold?
C'est une bonne question.
Hein?
C'est une très bonne question. D'où elle vient? Elle vient, je pense, du plaisir que j'ai à exercer la mission qui est la mienne. Hein. Toujours, je n'exerce pas un métier, j'exerce une mission, c'est une passion. Être au service des autres, essayer de les accompagner dans les moments joyeux comme dans les moments un peu plus difficiles. Plus difficile. Essayer de transmettre aussi, bien sûr, la transmission, c'est un des moments phares aussi de la mission qui est la mienne quotidienne.
Parce que vous êtes un guide spirituel, on peut dire ça. Vous êtes ici, vous occupez de toutes les synagogues du Bas-Rhin.
Tout à fait, je m'occupe de toutes les synagogues du Bas-Rhin, mais j'ai dit de manière en réalité bien plus large.
Pas que des bâtiments, hein, voilà, on n'a pas de l'architecture.
Hein. Heureusement, pas que des bâtiments, je m'occupe des personnes.
De la spiritualité.
Tout à fait, la spiritualité, mais surtout des personnes. C'est ça, André, que j'ai envie de vous dire. Bien au-delà, comme vous l'avez dit, des bâtiments, d'une mission qui serait un peu trop cadrée. Moi, mon objectif, c'est de m'occuper vraiment des gens, quels qu'ils soient en réalité, quel que soit leur degré de pratique religieuse, quel que soit leur âge, bien évidemment.
Vous avez combien de synagogues dans votre... on ne peut pas dire en diocèse, mais je ne sais pas comment vous dites. Combien de synagogues dans le Bas-Rhin dont vous vous occupez?
Alors, c'est assez important, parce que le nombre...
Il y en a beaucoup.
Hein. Voilà, le nombre d'offices, en réalité, c'est vraiment développé à Strasbourg. Donc, tout est concentré quasiment sur Strasbourg aujourd'hui. Et la banlieue vraiment très proche, qu'on appelle la banlieue proche, c'est-à-dire Bischheim, encore
Bestofen, qui fonctionne. Il y a des synagogues.
Même pas, non, vraiment, c'est beaucoup plus proche. Hein, c'est vraiment la Petite Couronne, Bischheim, la Meno, qui est encore même une partie de Strasbourg, Lingolsheim, Wolfisheim, c'est vraiment la banlieue très proche de Strasbourg. En dehors...
Vous voulez dire que là, il y a des synagogues un peu partout, ce que vous citez là, Bischheim,
Lingolsheim... Tout à fait, on a encore un office qui fonctionne à Bischheim, à Lingolsheim, à Wolfisheim. Tout le reste est concentré sur Strasbourg. Vraiment, les synagogues qui fonctionnent encore ponctuellement sont Célestat, Aubernais, de temps en temps.
Ouais, ouais.
Malheureusement, les autres synagogues du Bas-Rhin, elles étaient très nombreuses. Hein.
Donc, Giller, là-haut,
quasiment
non,
dans
chaque
village, ça ne fonctionne
ça
plus.
Ça ne fonctionne plus, c'est un musée, je crois.
Tout à fait.
Ouais, ouais. Alors, on peut dire. Donc, vous êtes le patron, on peut dire ça comme ça.
Il y a des dizaines d'offices.
Hein. Et après, il y a des petits rabbins. Il y a des rabbins, des grands rabbins et des petits rabbins.
Alors, chez nous, il n'y a pas d'organisation pyramidale. J'avais déjà dit. Il faut, entre guillemets, un responsable, quelqu'un pour essayer un peu d'être le chef d'orchestre. Mais ça se passe de manière transversale. Voilà, on n'est pas organisé avec. Une espèce de hiérarchie comme ça qui viendrait un petit peu donner des ordres. On est plutôt là pour mettre un petit peu d'huile dans les rouages. Et donc, pour moi, il n'y a pas de grands rabbins et de petits rabbins. Il n'y a que des rabbins.
C'est de l'humour, quoi. Ouais, mais après, vous avez un peu le même rôle qu'un bischof, qu'un évêque, ou la même chose. Parce que voilà, vous vous occupez de tout ce que vous me dites à l'instant, mais beaucoup, beaucoup plus de spiritualité, hein, vous faire passer un message.
Tout à fait. On est là vraiment pour pour faire passer des messages. On est là pour apporter un petit peu de lumière, de soleil dans une vie qui est parfois un petit peu compliquée.
Oh, c'est beau, ça.
On est dans une société, on le sait, dans laquelle on est confronté à des choses très très difficiles.
Difficile,
on a l'impression parfois qu'il n'y a pas d'espoir, pas d'avenir possible.
Et on ne peut pas comprendre. On ne peut pas le comprendre, ça. C'est franchement, je ne saisis pas tout ça, quoi. Mais bon, on est là pour parler un peu de positif. Et justement, j'aimerais mieux vous connaître. Mais d'où vous venez? Vous avez grandi où, Harold? Vous avez grandi en Alsace? Vous êtes alsacien? Vous avez des racines, des wurzels là, alsaciennes?
J'ai des racines alsaciennes depuis très, très, très longtemps. C'est avéré en tout cas au moins depuis 5 siècles.
C'est pas vrai, 5 siècles?
Tout à fait.
Mais ça fait combien de générations, ça?
Ça en fait pas mal.
Fois 4, ça fait... Waouh, c'est énorme.
Ça en fait pas mal. Nous sommes originaires du sud du Bas-Rhin.
Ça veut dire Schlettstadt par là, Célestat?
À côté, petit village qui s'appelle Mackenheim,
d'accord.
À proximité de Célestat, qui est collé à Markolsheim, qui est un petit peu plus grand. Mackenheim, c'est vraiment tout petit. C'est là que mon grand-père est né encore. Mon papa, lui, est né à la fin de la guerre, en décembre 1943. Donc lui est né en Dordogne, là où les juifs s'étaient réfugiés pendant la guerre.
Mes parents sont là-bas, sont allés là-bas aussi.
Et donc mes grands-parents sont revenus. Ma grand-mère, elle, était allemande, de la vallée du Rhin aussi, elle était dans la Sarre.
Dann sprechen Sie gut Deutsch, flüssig Deutsch.
Malheureusement, j'ai un allemand catastrophique.
Sich nicht wahr,
J'ai un allemand catastrophique, bien sûr, je comprends, parce que j'ai appris entre-temps le yiddish et des langues néerlandais, même où on a beaucoup d'allemands dans le néerlandais. Mais donc j'ai une grand-mère qui, elle, était allemande et qui est venue s'installer avec mon grand-père à Bischheim. Et ma grand-mère tenait une épicerie à Bischheim. Et donc moi, j'ai grandi.
Et c'est à quel endroit, ça? Parce que moi, je suis de Schillig.
Route de
Bischwiller. J'ai connu ça, certainement, bien sûr. Quand elle vendait des carambars, sans doute, des chewing-gums.
Des bonbons. mon père m'a raconté, ma grand-mère déjà, dont j'étais très, très proche, qui malheureusement nous a quittés maintenant il y a 25 ans, quasiment. Mais j'en étais très, très proche, m'a raconté beaucoup de souvenirs de cette épicerie. Et donc moi, j'ai passé les premières années de ma vie à Schiltigheim, parce que mes parents habitaient rue Comtade à Schiltigheim quand je suis né.
Je vois très bien.
Au CMCO et on a déménagé par la suite, la veille de mon entrée au CP, à la Roberto. À la Roberto que j'ai vraiment grandi de 6 à 18 ans.
Et c'était en fait vos terrains de jeu là-bas, j'imagine. Vous avez joué aux billes là-bas, aux cow-boys, aux indiens?
Alors, je jouais plus au foot.
Ah, c'est vrai, vous m'aviez dit que vous étiez un très grand sportif. Ça se voit d'ailleurs, vous êtes très, très mince, vous devez faire beaucoup de sport, non?
Alors, j'en fais plus autant que je souhaiterais, mais bon, je continue à marcher quand même beaucoup et à essayer de m'entretenir sans avoir la possibilité d'organiser, on va dire, mes séances de sport. Donc, on le fait un petit peu différemment et j'essaie de pas prendre l'ascenseur
et de marcher,
et de me dépenser. Ouais. Mais c'est vrai que j'étais un grand sportif, notamment foot, tennis. J'ai fait toutes sortes de sports et ce que je continue à pratiquer encore aujourd'hui.
On en parle un petit peu plus tard du ski, tout à l'heure, de la montagne, parce que vous aimez la montagne. Vous étiez un enfant heureux. Vous étiez une enfance paradisiaque, on peut dire ça comme ça.
Très heureux.
Très heureux.
Il
faut dire que vous étiez enfant unique. Vous étiez choyé, j'imagine.
Très choyé. Ah. J'ai eu des parents extraordinaires. J'ai des parents. Pourquoi je parlais au passé?
Vous avez des parents extraordinaires.
Extraordinaires.
Mais gardez-les précieusement.
De mes enfants, tous les jours, qui sont vraiment très, très proches de la famille et qui vivent pour moi et pour mes enfants. Et j'ai eu une enfance vraiment très heureuse.
Et est-ce qu'on peut dire nos pères, votre père, c'est un héros, on peut dire nos pères sont des héros. Est-ce qu'on a une image comme ça du patriarche, du père qui vous fait découvrir plein de choses, je crois qu'il vous a emmené beaucoup à Portales sa bicyclette, sentir la nature, sentir les parfums de la nature?
Bien sûr, ça l'a été. Alors ça l'est à plusieurs titres. André, le premier, c'est que mon père n'a pas eu une enfance, je pense, très facile. Alors, premièrement, il est né, il ne l'a pas choisi, mais il est né un petit peu éloigné de sa patrie, réfugié en Dordogne. Même si, de ce que ma grand-mère en racontait, les souvenirs de cette partie de la guerre étaient finalement assez heureux, et suffisamment en tout cas heureux pour que mes grands-parents aient un enfant pendant la guerre, en l'occurrence mon papa. Mon père a perdu son papa très très jeune. Mon père avait 10 ans, donc la famille est brisée, il est fils unique lui-même, donc ma grand-mère se retrouve en très très grande difficulté financière à ce moment-là.
Bien sûr.
Mon père avait une relation fusionnelle avec sa maman. Et donc forcément, mon père a voulu aider ma grand-mère, donc il a dû arrêter l'école très très jeune, commencer à travailler à l'âge de 13 ans, de 12 ans. Et donc c'est l'âge où normalement, voilà, on s'amuse
sûr,
à l'école, et puis on apprend.
Au début de la vie,
Et finalement, bon, mon père s'en est très bien sorti, mais donc il a un exemple de courage, d'abnégation,
ouais,
il s'est construit tout seul.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et il m'a fait découvrir effectivement beaucoup de choses. Il a toujours été curieux de tout, mon père, de tout
comme
ce qu'il
vous,
n'a pas
fait.
Pu apprendre à l'école.
Et ça s'est transmis, ça c'est...
Exactement.
Ouais, et alors là, vous parlez de la famille, des racines. Votre maman, parlez-moi un peu de votre maman. Est-ce que c'est une bonne cuisinière, votre maman? Est-ce qu'elle vous fait des petits plats préférés? C'est quoi votre Madeleine de Proust?
Il ne faut pas poser la question à mon père qui aurait profité pour charrier ma maman. Mais non, ma maman nous a aussi beaucoup gâtés. Elle aimait beaucoup faire la cuisine. Finalement, donc ma mère a des racines complètement différentes. Je suis le produit, on va dire, de deux cultures complètement différentes, parce que ma mère est pied-noir. Ma mère est née en Algérie. Elle a quitté l'Algérie à l'âge de 10 ans, hein, au début des années 60, au moment de la guerre d'Algérie, et elle est venue s'installer à proximité de Paris, dans une petite ville, petite ville, pas si petite que ça, mais en tout cas petite par rapport à Strasbourg, Amiens.
Ah oui, Amiens,
capitale, je connais bien. De la Picardie, et c'est là-bas que donc, ma maman a poursuivi sa scolarité, qu'elle a fait ses études de médecine.
Wow.
Et elle a finalement, donc, des années plus tard, rencontré mon papa. Donc j'ai la culture pied-noir, hein, vraiment là, cette culture séfarade,
qui s'est
mélangée avec la culture ashkénaze.
Et ça donne
très
produit, quoi.
Alors voilà, donc, plutôt que, même si ma mère a appris à faire la choucroute et le bekof, etc., au début, on mangeait plutôt du couscous à la maison. Et de la loubia, qui est un plat aussi.
Loubia, c'est quoi exactement?
C'est un plat avec des mijotés, avec des haricots blancs. C'est des plats qu'on mangeait le Shabbat, parce que
d'accord.
le Shabbat, on ne cuisine pas, on laisse les plats mijotés sur la veille. Chauffante.
Ah ouais.
Et donc il faut manger des choses qui se mijotent et qui ne vont pas se détériorer à la cuisson.
Oui, j'ai fait une émission avec une communauté juive quand je faisais mes émissions culinaires et c'était très 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 intéressant. Donc, on a passé des super bons moments dans la cuisine. Alors là, on parle des études de votre maman. Hein, et vous dites-moi, comment vous étiez à l'école? Vous étiez un bon élève? Vous étiez un peu turbulent? Vous étiez rêveur, bosseur? Ça s'est passé comment votre... Moi, je pense que vous étiez brillantissime.
Alors brillantissime, c'est un terme un peu trop fort.
Ah, c'est un joli terme.
Non, disons que j'étais bien cadré aussi par mes parents, surtout par ma maman. Alors le côté scolaire, c'était bien sûr ma maman, parce que mon père n'était pas forcément à même de pouvoir m'aider pour mes devoirs. Lui, le pauvre qui avait arrêté l'école en cinquième,
qui s'est construit
tout seul, qui a très bien réussi dans la vie, mais en dehors de l'école, ce qu'il a toujours beaucoup malheureusement regretté. Donc c'est ma maman, elle qui me cadrait, elle qui a été bac plus 10, c'est elle qui me cadrait pour
les
devoirs, mais j'étais quand même assez autonome. Et
parce que vous aviez une bonne mémoire à l'école, vous étiez attentif, vous étiez travailleur.
La mémoire, c'est un cadeau du ciel.
Et franchement, ça, vous l'avez.
Il faut l'entretenir. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une bonne mémoire, mais c'est vraiment un cadeau. Ça se travaille, mais c'est. Je pense qu'on n'a pas de mérite finalement à avoir une bonne mémoire. Après, il y a un minimum de travail qui est nécessaire. Donc oui, je travaillais, mais parce que j'étais aussi, bien soutenu aussi par ma maman qui me rappelait quand est-ce qu'il fallait aussi travailler à certains moments et ça m'a permis de passer une scolarité
sans brillantissime problème. Comme je vous l'ai dit à l'heure. Alors, mais rêver quand même, c'est important de rêver un peu de temps en temps, d'avoir des rêves. C'était quoi les rêves de votre enfance quand vous étiez petit garçon ou adolescent? Vous aviez envie d'être quoi? Pilote d'avion? Vous étiez envie d'être pompier? Vous aviez envie de... C'était quoi vos rêves?
André, j'ai eu les mêmes rêves que tous les enfants. Donc tout dépend bien sûr des époques. Quand on est petit, on a envie de conduire un camion poubelle.
Exactement.
Comme tous les enfants.
Comme
moi, je voulais être camion poubelle, mais je voulais être conducteur. J'avais un petit enregistreur Fisher-Price.
Ah oui, oui.
Il était marron, je me rappelle, quand j'étais petit, avec le micro, avec la spirale en plastique qui était attachée. Et on mettait, ça, il y a les cassettes encore. Donc
je me
cassettes. Et puis
mon fils avait ça aussi.
Alors j'adorais me balader, puis je faisais des interviews.
Déjà, waouh.
Et des fois, c'est mon père qui prenait le micro pour m'interviewer. Il faudrait que je retrouve la cassette dans laquelle il me demande ce que j'aimerais faire quand je suis plus grand.
Et alors, c'était quoi, vous aviez?
Donc je voulais être camion poubelle, et il me dit, mais chauffeur ou celui qui est derrière et qui prend les poubelles? Et moi, je voulais être chauffeur de camion poubelle.
Bah, il n'y a pas de saut métier. C'est vrai. On va se reposer un peu les oreilles et on va écouter une petite musiquette que vous aimez beaucoup. Vas-y voir Thomas, mets-nous voir un peu la sauce là.
Mm-hmm.
Là, je vous vois attentif, vous plissez les yeux, vous vous rythmez, c'est comme... Vous écoutez cette musique avec cœur. Hein. Je crois que le jazz, c'est votre truc, hein. C'est votre tasse de thé.
Alors, mon père m'a initié au jazz assez jeune. Mon père est un grand mélomane et particulièrement donc amateur de jazz. Il m'a initié au saxophone. Lui-même n'étant pas musicien,
vous jouez un instrument ?
C'était un grand regret, tout à fait. Donc, mon père m'a inscrit en école de musique. C'est un peu lui qui m'a dirigé vers le saxophone, mais je l'ai dit, sans m'y contraindre, hein, puisque c'est un instrument que j'aimais beaucoup.
Enfin, c'est aussi fascinait. Un peu pour séduire, non, le saxo? Parce que ça donne un peu des frissons dans le bas du dos.
En tout cas, c'est un instrument qui est extraordinaire, parce que c'est un instrument qui est très polyvalent. Et donc, c'est vrai qu'on associe souvent le saxophone au jazz. C'est par définition, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Je pense que le saxophone a été vraiment créé pour le jazz.
Bah, il s'appelait donc, sax, d'ailleurs, non?
Tout à fait, exactement. Ouais, Adolphe Sax. Mais on peut faire plein d'autres choses avec le saxophone. On peut même jouer du classique.
Hein, c'est vrai.
Moi-même, j'étais en big band. Dans l'école de musique, le CRFM, dans laquelle j'ai appris à jouer, Place Saint-Thomas.
Place Saint-Thomas, oui, bien sûr.
Et donc, dans le big band, on ne jouait pas que du jazz, on jouait aussi de la musique classique. En réalité, on peut jouer toutes sortes de musique avec
Mais
le saxophone.
Mais il faut du souffle, non? Comment vous faites avec...
Alors, je dirais que le saxophone n'est pas forcément... Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que je le perçois, pas forcément un instrument très difficile. Je pense que la trompette, voilà, qu'on vient d'écouter, est un instrument beaucoup plus difficile, dans lequel il faut plus de souffle. Je rappelle qu'en plus, la trompette, voilà, on a que trois pistons.
Oui, c'est ça, des pistons, là.
Il faut jouer avec la bouche aussi pour faire les notes, ce qui n'est pas le cas du saxophone. Une fois qu'on a l'embouchure, on a notre gamme de notes avec nos octaves, et donc c'est un instrument qui est, à mon sens, beaucoup plus facile à jouer, beaucoup plus facile même que sa petite sœur, qui est la clarinette.
La clarinette, voilà,
exactement, avec les mêmes doigtés, et qui demande au niveau du souffle et au niveau de l'embouchure, beaucoup plus de technique que le saxophone. J'ai un oncle qui joue de la clarinette. J'ai essayé de jouer avec sa clarinette quand j'étais petit.
Et je crois qu'ici, vous êtes connu, hein, la synagogue. Hein, les gens vous entendent de temps en temps claironner là-haut dans les... Vous jouez de temps en temps de la musique ici.
On a beaucoup d'événements musicaux. Ici au centre communautaire, et donc ça donne l'occasion, alors à la fois pour les grandes fêtes joyeuses, hein, de notre calendrier, comme Hanouka, comme Purim, où c'est l'occasion de sortir le saxophone, comme d'autres concerts qui sont organisés tout au long de l'année, et pour lesquels il m'arrive de ramener mon saxophone. D'ailleurs, mon saxophone, je ne le garde pas chez moi à la maison, il est ici,
dans votre bureau.
Dans mon bureau, et c'est vrai que je m'y suis quand même remis en venant à Strasbourg, parce que toute ma période toulousaine, les 7 ans que j'ai passé à Toulouse avant de venir à Strasbourg, ont été, on va dire, une période assez calme par rapport à
La synagogue est un bel endroit pour jouer du klaxon. Le son, il est présent dans toute la synagogue quand vous jouez ici à votre saxo.
Voilà, ça reste quand même, on va dire, assez rare et assez original, dans le sens où, André, chez nous, les offices, et je pense notamment aux offices du Shabbat, hein, se déroulent sans instrument, sans électricité, sans instrument de musique. Donc on n'a pas l'habitude d'avoir des offices accompagnés par la musique, mais on peut avoir, lors de moments festifs qui se déroulent dans des jours de semaine, un accompagnement musical, sans aucun problème. Et c'est ce qui nous arrive de faire, donc j'ai dit notamment lors des grandes fêtes.
Le son est assez beau. Alors, vous êtes un grand rabbin moderne, on peut dire ça. Vous êtes jeune, hein,
c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de me qualifier, mais ça me fait très plaisir que vous me voyez comme ça.
Bah oui, moi je vous vois jeune, vous êtes élégant avec votre redingote, et en plus, moi ce qui me plaît avec vous, vous avez une grande barbe comme j'avais quand j'étais jeune. Quand j'avais jeune, j'avais aussi une barbe rousse comme ça. Et après, vous avez des legela, c'est ça me plaît. Dites-moi,
comment vous appelez ça alors en alsacien?
Des legela, des bouclettes. Alors moi, je trouve ça génial, les bouclettes. Mais comment vous faites? Vous dormez avec des bigoudis la nuit?
Ah non, ça demande beaucoup de dextérité. Vous voyez, je vous apprendrai.
Ah, mais j'ai plus de cheveux.
Ah, mais c'est pas grave, on va s'occuper, je vais vous arroser. Je vais vous amener chez Jardiland à la fin de l'émission avec moi. Et on va vous arroser.
Les trucs pour les géraniums.
Exactement. Et ça a poussé, vous verrez que voilà, ça se fait,
ça s'entretient.
Oui, tout à fait, ça s'entretient. Il y a plusieurs significations. Il y en a qui sont un petit peu ésotériques, qui risquent d'ennuyer un petit peu nos auditrices et nos auditeurs. Il y en a qui sont un peu plus
pragmatiques. C'est intéressant de savoir.
Alors, on va dire, de manière très pragmatique et très technique, parmi les nombreux commandements qui existent, il y en a un qui nous interdit de nous raser. Voilà, une partie de la tête, notamment la partie qui se trouve autour de l'oreille. Et on va dire que par tradition...
Pour mieux entendre.
Voilà, certes, alors c'est peut-être pour mieux entendre, vous avez raison. Je ne sais pas, en tout cas, on va dire que ça fait partie des lois irrationnelles. Mais disons que par tradition, voilà, certains ont eu l'habitude, du coup, puisqu'on n'a pas le droit de se raser à cet endroit-là, bien tout simplement de laisser pousser les cheveux, justement pour ne pas prendre le risque de se couper les cheveux trop courts.
À cet endroit-là,
ça serait une raison au départ qui est un peu technique. Et cette tradition dans certains courants s'est perpétuée de génération en génération.
Mais ça, c'est votre image à vous. Je sais que le grand rabbin de France, lui, il n'a pas les lesquels. Lui, non, il n'en a pas. Chacun fait un peu comme
exactement,
il a envie de faire.
Il est d'une autre sensibilité. D'accord. Et c'est ce qui fait aussi toute la beauté, on va dire, du peuple juif. Je ne parle pas de courant, parce que ça ne veut rien dire pour nous, des courants différents. On est tous rattachés, on va dire, à un même socle de valeurs, qui est notre Torah, mais il y a des sensibilités après différentes.
Parce que quand je passe là avec mon vélo, avant de venir ici au jardin des Comtades, on voit beaucoup de petits enfants, de petits garçons qui se baladent aussi comme ça. Voilà. Non, mes petits enfants jouent avec eux de temps en temps. Et après, ils ont aussi des petites ficelles comme ça à la ceinture.
Tout à fait.
Rappelez-moi la signification de cette ficelle.
La signification de ces ficelles, ça s'appelle des tzitzit.
Tzitzit.
Et en fait, donc c'est un vêtement à quatre coins. Mm-hmm. Ça, on ne le voit pas forcément d'extérieur, mais on voit juste les ficelles qui dépassent. Et c'est un vêtement à quatre coins, une sorte de petit pancho qu'on porte sous la chemise, sous le polo, sous le t-shirt, peu importe. Et en fait, ces quatre coins rappellent les quatre points cardinaux.
Ah.
Et donc, la vue, en réalité, de ces ficelles, qui sont nouées selon un ordre bien particulier, nous rappelle tout simplement la présence de Dieu aux quatre points cardinaux du monde. Et donc, c'est une manière aussi de se rappeler en permanence ce qui est un petit peu
qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, exactement, c'est ce que j'allais dire. Alors, tout ça, c'est très très intéressant. Maintenant, moi, j'ai envie de savoir un peu ce côté sportif. Je sais que vous faites du sport depuis votre enfance. Genre, vous avez touché au basket, au foot, au tennis, nage,
natation.
Et surtout, vous êtes un grand skieur. Parlez-moi un peu de cette montagne que vous affectionnez. Faites-moi un peu rêver. C'est où le lieu où vous avez envie d'aller skier?
Alors,
c'est comment cette montagne?
Si vous me branchez sur le ski, André, on est parti pour 3 heures, là, minimum.
Bon, Thomas, il reste 5 minutes.
Ouais, non, c'est pas grave, Thomas, Thomas, on l'adore, c'est notre monteur sans lequel on pourrait rien faire cette radio.
Et après, on a nos deux anges à côté,
Tout à fait.
Sybille et Valérie qui sont adorables. Et c'est pour ça que je suis là aussi.
Qui nous accueillent toujours avec le sourire.
Ah ouais, c'est des gens exceptionnels. Ouais.
Alors, le ski, c'est mon père qui m'a initié au ski, comme à beaucoup d'autres choses. C'est mon père d'ailleurs qui a initié ma maman. En Algérie, on faisait pas beaucoup de ski. Et mon père, lui, a démarré le ski, on va dire, relativement tard. Mon père n'a pas skié dans sa jeunesse. On va dire qu'il n'est pas né dans une famille dont le niveau social lui permettait de partir skier. Il l'a découvert beaucoup plus tard, mais il a tout de suite été passionné de ski. Donc mon père s'est dit, je vais faire avec mon fils que moi, je n'ai pas eu l'occasion de faire petit. Et mon père m'a mis sur des skis avant même que je sache marcher, je crois. Donc j'étais sur des skis tout petit. Vous l'avez compris, André, j'étais déjà entre les jambes de mon père, voilà, à ski, alors que je tenais
comme
à peine
comme un petit pingouin qui s'occupe de son...
Et j'ai eu la chance d'avoir un parent qui m'amenait skier régulièrement. Donc
génial.
On allait skier en décembre, on allait skier en février. Un peu plus tard, il y avait une partie où c'était en colonie de vacances de ski. Et puis,
donc vous avez
avec mes parents.
Premières étoiles, vous avez
J'ai même skié après, par la suite, j'ai même skié au printemps aussi. J'allais skier pour la fête de Pessah, les jours de mi-fête. Je partais à Morzine aussi, donc j'allais skier aussi au printemps. Donc oui, j'ai fait l'école de ski française avec toutes les
Et comment se sent dans la montagne, dans cet air pur, avec ces paysages magnifiques, cartes postales.
Extraordinaire. Pour moi, la montagne, c'est le plus beau paysage, c'est l'endroit où on se ressource le plus. Je suis complètement fou, subjugué par ces paysages magnifiques, par le calme, par la vue de la neige, des sapins. Donc c'est vrai que mon père m'a amené quasiment partout, principalement je parle dans les Alpes françaises, on allait surtout en France, j'ai un peu skié aussi en Suisse, mais c'était vraiment quasiment toutes les stations françaises, à commencer bien sûr par les Portes du Soleil, mais l'Alpe d'Huez, Tine, La Plagne, les Menuires, Val Thorens, enfin bref, je ne vais pas vous citer toutes les stations françaises, je les ai quasiment toutes faites. Et bien sûr après les
Et vous Gaudiez alors, piste noire, tout ça là
Voilà, exactement, je suis un peu un casse-cou, faut pas le dire.
Non, on le dira à personne, personne ne nous écoute.
Le ski est une telle évasion que c'est vrai que je suis capable de partir à 5h du matin pour aller skier une journée.
Waouh. Et alors, moi, une petite question indiscrète, votre barbe elle gèle alors? Elle est comment cette barbe? Elle est toute blanche?
Alors, je vous ai dit, oui, elle a gelé pendant un certain nombre d'années. Et malheureusement, c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, on n'a plus de température extrême. Vous savez qu'André, moi, je me rappelle de stages de ski en décembre, à Tine notamment. Lorsque vous montiez à Tine-Valcarès sur le glacier à 3500 mètres, on avait du moins 30. Du moins 30
évidemment.
Quand on partait skier le matin à 8h30, 8h45 à l'ouverture des pistes.
J'ai connu
tout ça
aussi.
C'est terminé.
C'est fini.
Aujourd'hui, vous skiez parfois en plein mois de décembre et vous arrivez de skier en après-midi avec 10 degrés.
Mais cette année, au mois de janvier, il y a eu pas pas mal de neige, j'étais au Saisy et on a eu 3-4 jours avec des gros flocons qui tombaient jour et nuit. Et c'était juste, comme vous dites, les sapins qui croulaient comme ça. C'était magnifique, quoi. C'est des paysages, c'est vrai que sublimes. Et on se ressource, on prend l'énergie, là.
Puis l'air de la montagne, c'est tout. C'est l'air de la montagne, c'est la liberté, c'est ces paysages à perte de vue, c'est extraordinaire.
Quand on se parle, là, quand on se voit tous les deux, là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment un monsieur très, très heureux. Vous avez quelque chose... Vous êtes un homme heureux, ça se sent, même s'il y a souvent des malheurs un peu partout. Mais ça, il faut les gérer. Mais sinon, vous avez la patate, quoi.
Ben c'est intéressant ce que vous dites, parce que je pense que le fait, justement, d'être confronté à beaucoup de choses très difficiles... Alors, bien sûr, quand on est grand rabbin, ben... J'ai dit, on accompagne pas simplement le début de la vie, ni les moments heureux comme les bar mitzvahs ou les mariages ou les fêtes, aussi bien sûr l'accompagnement de fin de vie. Donc on est confronté beaucoup à la maladie, on est confronté à la solitude, on est confronté à la douleur, on est confronté à la sénilité, on est confronté à des choses qui sont très très compliquées.
Au départ des gens.
On est beaucoup confronté au départ des gens, on fait beaucoup d'enterrements. Je sais pas combien d'enterrements j'ai célébré, j'ai dû célébrer 1000 enterrements peut-être depuis le début de ma carrière. Enfin, c'est des chiffres qui sont assez énormes.
Et en fait,
donc
c'est
on a besoin de contrebalancer.
Oui, c'est vrai. Je me souviens, par exemple, des cimetières juifs. Je vois souvent des pierres comme ça sur les tombes. C'est quoi la signification de cette pierre? On ne met pas des fleurs, mais on met des pierres.
Tout à fait.
C'est ça?
Les fleurs fanent, André. Ouais. Les pierres restent. Vous pouvez revenir dans 100 ans, dans 200 ans.
Elles seront toujours là.
Votre petite pierre, elle est toute discrète, mais elle sera là encore dans 200 ans. Et ça fait allusion à l'éternité de la vie. Et c'est aussi ça, finalement, qui nous porte et qui donne peut-être cette joie de vivre. C'est de savoir que pour nous, voilà, la mort n'est pas une fin, c'est un passage. Et l'âme, elle continue à vivre. Donc, on est dans cette perspective, finalement,
vous
de vie.
Vous pensez ça vraiment? Que
ah oui, bien
on
sûr.
Continue.
Tout à fait.
Et l'âme, elle va où, d'après vous?
L'âme, elle retourne chez son créateur. Donc, bien sûr, c'est une vie qui est totalement différente de celle que l'on vit sur Terre, où on a
un
mariage entre l'âme et le corps.
Oui, ce sera plus. On sera comment? Ce sera. Je me pose la question. Vous avez une idée, non? Quand on est à côté du créateur, c'est quoi? On est. On est un confetti.
Je viendrai vous le raconter à 120 ans, André.
Moi, je serai plus là.
J'en ai pas fait l'expérience.
J'y serai beaucoup avant vous, monsieur le rabbin. Je serai avant vous. Écoutez, on va écouter une petite musiquette avant de quitter, parce que l'émission passe. On va juste mettre sa petite musiquette. Vas-y voir, Ella Fitzgerald. On se quitte, monsieur le grand rabbin, avec cette belle note. C'est comment votre été? Vous allez le passer comment, votre été?
Alors, mon été, ça va pas se passer à la montagne.
Ouais.
À mon grand regret, on regarde la montagne pour l'hiver, mais j'adore la montagne aussi pour l'été.
Pour l'été.
Là, l'été va se passer à Marseille, comme chaque année.
En famille.
En famille, d'accord. Bien sûr, avec mon épouse, avec mes enfants. J'aime beaucoup le bateau, j'ai le permis bateau, mon épouse aussi, donc je suis aussi navigateur, on en a pas parlé.
C'est
vrai que j'adore la mer.
Un homme complet, c'est incroyable. En tout cas, je vous remercie d'être venu jusqu'à chez nous, dans votre radio, la radio aussi qui est un peu à moi depuis 3 ans. Et je pense qu'on va voir si je passe en 4e année, on verra ça un peu plus tard.
Mais vous passez en 4e année, j'aurais pu vous le dire déjà avant de commencer l'émission.
Vous me donnez le diplôme?
Ah oui,
parce que j'ai bachoté pour passer en 4e année.
Avec félicitations du jury.
Ah ben ça c'est génial. Merci monsieur le rabbin, passez un bel été et à très bientôt.
Avec plaisir, à bientôt.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà.